soir, chaque 5 juin, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l'environnement. Dans son message à cette occasion, le secrétaire général de l'ONU affirme que la production alimentaire dans le monde dépasse la demande. Ban Ki-moon fait remarquer cependant que 870 millions de personnes sont sous-alimentées. Le tiers au moins de tous les aliments produits ne parviennent pas aux consommateurs, ajoute-t-il. Comment analyser ce paradoxe relevé par le secrétaire général de l'ONU? Trois invités participent à cette émission. Ingénieur José Ilanga, directeur coordonnateur d'études et planification au ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Ingénieur Ilanga, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Shango Mutambwe, professeur d'université et docteur en écologie des milieux aquatiques et poissons. Professeur Shango, bonsoir.
Bonsoir.
Al Kitenge, analyste économique et stratège. Monsieur Kitenge, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Merci de nous recevoir chez vous.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Le 5 juin, c'est la Journée mondiale de l'environnement. À l'occasion, le secrétaire général des Nations Unies a lancé un message intitulé « Penser, manger, préserver, dites non au gaspillage alimentaire ». L'essentiel du message de Ban Ki-moon avec vous, Kelly Kouté.
Le secrétaire général de l'ONU identifie les insectes nuisibles et les chaînes d'approvisionnement inefficaces comme les grandes causes des pertes alimentaires dans les pays en développement. Pendant ce temps, dans les pays développés, ce sont les aliments jetés qui pourrissent dans des déchets en émettant d'importantes quantités de gaz polluants. En réduisant le gaspillage, Ban Ki-moon pense qu'on pourra économiser des ressources et surtout progresser vers un monde où chacun mange à sa faim. D'où la vision de son défi Faim Zéro lancé l'an dernier à la conférence des Nations Unies sur le développement durable Rio plus 20. Selon le patron de l'ONU, les pays du monde doivent assurer à tous une nutrition suffisante, doubler la productivité des petits agriculteurs qui produisent l'essentiel des aliments du monde en développement et rendre durable le système alimentaire face aux chocs environnementaux et économiques. Pour réduire l'écart de la faim et améliorer les bien-être des plus vulnérables, Ban Ki-moon pense qu'il faut s'attaquer aux pertes et gaspillages énormes inhérents au système alimentaire actuel où les tiers au moins de tous les aliments produits ne parviennent pas aux consommateurs. À en croire le secrétaire général de l'ONU, les infrastructures et la technologie peuvent aussi réduire la quantité d'aliments qui périssent après la récolte et avant d'atteindre les marchés. Par conséquent, il invite les gouvernements des pays en développement à travailler en vue d'améliorer l'infrastructure essentielle et à maximiser les possibilités d'échange avec leurs voisins.
Merci Kevin Kouté. Par rapport à la célébration de cette journée, le ministre de l'Environnement affirme qu'il faut aller vers des types de production et de consommation qui améliorent les conditions socio-économiques des populations, mais il faut tenir compte de la protection de l'environnement. Bavon Sampoutou est au micro.
Dans nos pays, les principes du développement durable se reposent sur des fondements assez précis en tenant compte de modes de production et de consommation durables. Nous tous, nous devons aller vers des types de production, des types de consommation qui améliorent les conditions socio-économiques de nos populations et qui tiennent compte également de la gestion des risques environnementaux. En d'autres termes, pour des consommations domestiques, l'idéal, c'est d'aller vers des modes de consommation qui puissent garantir une protection de l'environnement et une amélioration des conditions socio-économiques de nos populations. Tous les efforts sont orientés vers la régénération des ressources et il va de soi que chacun d'entre nous est appelé à tenir compte de ces principes dans la gestion de sa vie quotidienne.
Pour dire qu'on ne peut pas mourir de faim en RDC.
Au regard de nos conditions météorologiques, au regard de notre réseau hydrographique dense, au regard de tous les écosystèmes qui sont disponibles dans notre pays, nous avons vraiment l'ambition et nous avons les moyens d'assurer à une bonne partie de l'humanité la couverture de ses besoins alimentaires de base.
Ingénieur José Ilanga, je rappelle que vous êtes directeur coordonnateur d'études et planification au ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Ingénieur Ilanga, penser, manger, préserver, dites non au gaspillage alimentaire, c'est le thème de cette journée. Mais comment penser, manger, préserver quand on n'a que la forêt comme seul moyen de subsistance, ingénieur?
Merci, monsieur le journaliste, et je crois les ministres en charge de l'environnement, conservation de la nature et tourisme a été un peu plus explicite lorsqu'il a levé un certain nombre d'options, dont notamment la protection de l'environnement. La protection de l'environnement pour durabiliser la production. La protection de l'environnement pour établir les équilibres entre les écosystèmes qui sont le support de la production agricole. Et il a aussi parlé, il a presque donné la réponse à une des préoccupations du secrétaire général des Nations Unies lorsqu'il dit qu'il faut un système de production durable, un système de production alimentaire durable. Ça veut dire que on ne peut penser durablement à résoudre les problèmes. Vous avez évoqué les cas de la surproduction dans les pays certainement développés, mais ici chez nous c'est beaucoup plus les cas de la sous-production. Et pour arriver à produire de façon saine, il faut préserver l'environnement. Pour arriver à résoudre les problèmes de pénurie alimentaire, surtout au niveau des grandes agglomérations alimentaires, des grandes agglomérations urbaines, il faut assurer l'évacuation de la production de l'arrière-pays vers la capitale ou vers les grandes agglomérations urbaines. Et je crois, à ce qui concerne la RDC, puisque je ne tiens pas à aller dans des équilibres qui sont peut-être difficilement maîtrisables, je crois, à ce qui concerne le cas de la RDC, la politique du gouvernement actuellement est essentiellement, lorsqu'on parle des 5 chantiers de la République, la politique est assise sur le développement de l'infrastructure, comme le recommande d'ailleurs le secrétaire général des Nations Unies, et qui dit développement des infrastructures, prenons seulement le cas des infrastructures routières, donc les développer, c'est soutenir l'effort de production. Les développer, c'est également aussi soutenir l'effort d'évacuation de production qui pourrissent. Et il faut pas se voiler la figure. Il y a de ces coins-là de notre pays où on produit et on sait pas évacuer, on sait pas vendre et partant, l'agriculture devient de plus en plus celle d'autoconsommation. Donc, au fait, pour me résumer, ça veut dire qu'il faut, rencontrer les 3 thématiques, penser, ça sous-entend, il faut un environnement sain, il faut un environnement qui puisse soutenir la production, et il faut manger de façon saine, équilibrée et préservée. Nous allons certainement rentrer dans le détail. Préserver, c'est faire en sorte que la gestion autour de l'environnement puisse être rationnelle, durable, pour nous, mais aussi pour les générations futures.
En d'autres termes, ingénieur Ilanga, est-ce qu'on peut concilier sécurité alimentaire et protection de l'environnement ici dans le contexte congolais?
Bien sûr que oui. Vous savez, je pars du principe que lorsque un espace est bien géré, là je prends l'exemple des terres forestières, vous savez très bien qu'un des facteurs de destruction des terres forestières, c'est l'agriculture itinérante subrouillée. Et lorsqu'on sait développer et diffuser des pratiques technologies saines comme l'agroforesterie par exemple, c'est-à-dire associer les cultures vivrières avec les arbres, notamment les légumineuses, on sait sédentariser cette pratique destructrice. Donc on peut assurer l'équilibre partant de l'amélioration et de la stabilisation de l'environnement à partir des pratiques simples, l'agroforesterie, j'ai cité, et aussi les reboisements avec des essences améliorantes comme les légumineuses. Oui, là, je suis de plus en plus convaincu. Et l'expérience est menée au niveau du ministère de l'Environnement à travers le pays, aussi bien avec l'accompagnement d'un certain nombre de partenaires comme la Banque africaine de développement que avec d'autres comme l'Union européenne. Et pour répondre plus précisément à votre préoccupation, oui, on sait produire de façon équilibrée, mais en utilisant des technologies qui ne détruisent pas l'environnement.
Nous prenons pour vous, ingénieur José Ilanga, cette réaction qui nous vient de Mbandaka à l'Équateur.
Chef des travaux, Jean-Bernard Mibeko Missia, Mbandaka, province de l'Équateur. La production alimentaire dépasse la demande du fait du faible pouvoir d'achat de la majorité de la population mondiale. Si cette majorité avait un pouvoir d'achat qui couvre ses besoins alimentaires, on allait assister à un renversement des tendances, c'est-à-dire la demande allait dépasser la production. Donc, ce constat n'est que le fait de la sous-consommation due elle-même au faible pouvoir d'achat de la population. Il faut donc résoudre résoudre ces paradoxes.
Réaction ingénieur Ilanga.
Ben, en partie, il a raison. Lorsque vous créez une pénurie, je ne suis pas expert économiste, mais lorsque vous créez une pénurie, c'est tout à fait normal que les prix des denrées alimentaires, même des bases, augmentent dangereusement. Et partant, si le pouvoir d'achat il est ce qu'il est, on ne sait pas subvenir à ses besoins. Mais je crois, j'ai dit, avec une meilleure gestion de son espace, une meilleure gestion de l'environnement en général, avec ce que je venais de dire, avec des technologies appropriées, adaptées à nos conditions. Parce que lorsqu'on parle, par exemple, de l'agroforesterie, vous n'apportez rien. Vous n'apportez rien si ce n'est que des semences forestières. Vous n'allez pas dans les engrais chimiques parce que nous recourons à ces légumineuses pour qu'ils puissent améliorer les substrats, pour que les rendements puissent augmenter, pour qu'on puisse avoir un produit de qualité qui soit moins toxique. Donc vous voyez que vous ne détruisez pas l'environnement en même temps, vous luttez et vous les stabilisez et vous augmentez les rendements.
Professeur Shango Mutambu, vous êtes professeur d'université et docteur en écologie des milieux aquatiques et poissons. Pensez, mangez, préservez, dites non au gaspillage alimentaire. Comment vous comprenez ce thème dans le contexte congolais?
En tout cas, gaspillage agricole en RDC, ça m'étonnerait. Je suis en train de faire des petits travaux de rien du tout ici à Kinshasa et à l'intérieur du pays. Mais je crois que depuis la zaïnisation, les déchocs pétroliers, les différentes guerres d'agression que notre pays connaît, la population, surtout la population rurale, connaît des situations extraordinairement difficiles. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de diversifier leurs activités pour pouvoir subvenir à leurs besoins essentiels. Mais en diversifiant leurs activités, ils sont en train de dégrader sérieusement les différents écosystèmes, tant aquatiques que terrestres. Donc, pour moi, c'est embêtant de voir que nous sommes dans un petit paradis, mais cette petite situation-là risque de ternir tous les efforts que le gouvernement est en train de faire pour pouvoir faire de la RDC le pays où il fait beau vivre.
Là, vous parlez de l'insécurité.
Alimentaire. Oui. Je ne sais pas si vous lisez les rapports, les différents rapports de la FAO. Les Congolais mangent à peu près 1300 calories par jour, alors que le minimum prévu est de 2700. Mais si vous lisez encore les rapports du sommet mondial alimentaire, nous faisons partie des pays à sauver parce que on est vraiment, il y a plus de 70% des Congolais qui mangent très mal.
Et c'est un véritable paradoxe par rapport à tout ce que nous avons, que vous avez vous-même dit, qu'on est presque un petit paradis. Professeur, comment vous expliquez un peu tout ça? Et au même moment, vous êtes expert en écologie des milieux aquatiques et en poissons. Il y a même des poissons qui pourrissent de vieillesse dans ce pays.
Oui, mais tout le monde dit des poissons qui meurent de vieillesse et qui pourrissent. Et moi, j'ai dit non. C'est la plus grosse bêtise qu'on puisse dire. Déjà en 1960... La RDC était le premier pays producteur de poissons d'État et de pêche. Aujourd'hui, nous sommes où? On occupe la dernière place. Et pourtant, nous avons le plus grand pays riche en écosystèmes aquatiques. Je dirais même nous sommes le château d'eau d'Afrique. Mais est-ce que nous produisons encore les poissons d'État comme avant l'indépendance? Est-ce que nous faisons encore la pêche comme par le passé? Dans l'État, chaque pêcheur avait une pirogue. Aujourd'hui, il faut 6 pêcheurs pour une pirogue ici à Kinkole. Qu'est-ce qu'on produit? Pratiquement nul.
Dans son message, professeur, le secrétaire général des Nations Unies dit, je cite, « Dans les pays en développement, les insectes nuisibles, les installations de stockage insuffisantes et les chaînes d'approvisionnement inefficaces sont les grandes causes des pertes alimentaires. » On sait par exemple qu'en ce qui concerne la RDC, elle n'est pas si frappée comme les pays sahéliens où on assiste à des vagues, des criquets destructeurs, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe en RDC, professeur? À quel niveau se trouve le problème, d'après
mais
vous?
Les conditions ne sont pas les mêmes. Les conditions écologiques ne sont pas les mêmes. Je suis en train de participer à un projet où il y a l'Afrique centrale et les pays tels que le Sénégal, le Mali et le Burkina Faso. Ils ont des problèmes, par exemple, des insectes qui détruisent des millions et des millions d'hectares. Mais cette situation, je ne l'ai pas encore vécue ici en RDC. Nous sommes encore dans un petit paradis. Mais le problème, comme l'a dit l'ingénieur Ilanga, monsieur l'ingénieur ou monsieur le directeur?
L'ingénieur.
Bon. Donc, je ne vais pas mélanger les pédales, monsieur l'ingénieur. Bon. Et comme il a dit, on peut très bien faire si les infrastructures étaient bien développées. J'étais très heureux de voir que le ministre de transport est en train de faire tout pour faire marcher notre plus grand boulevard, qui est le fleuve Congo. Moi, je viens d'un territoire inconnu de la RDC, mais qui, avant l'indépendance, était le grenier de la RDC. Ça s'appelle le territoire de Lomela. Mais depuis 76, il n'y a pas de bateau, alors qu'on a deux rivières navigables. On produisait tout EVA, on était premier pays, territoire producteur d'EVA, de coton, de cacahuètes et de cobalt. Mais aujourd'hui, zéro, on ne produit rien, il n'y a même pas de route. Donc, si aujourd'hui, on essayait de faire marcher les bateaux, qui marchaient à l'époque avec du bois et la forêt toujours là, on était bien. Aujourd'hui, quand je suis arrivé pour la première fois à Kinshasa, j'étais surpris de voir qu'on achetait le riz, alors que nous, on produisait des tonnes et des milliers de tonnes de riz qu'on envoyait à Kinshasa.
Alkitenge, vous êtes analyste économique et stratège. Pensez, mangez, préservez, dites non au gaspillage alimentaire. Quelle est votre perception, votre analyse par rapport à ce thème?
D'abord, j'aimerais contextualiser le message des Nations Unies et de son patron. Nous sommes dans ce qu'on appelle le siècle de la comptabilité mondiale. Aujourd'hui, nous devons rendre compte à la nature, nous devons rendre compte à Dieu, nous devons rendre compte aux citoyens qui nous regardent. Pourquoi je le dis? Parce que simplement, les nouveaux paradigmes économiques doivent s'installer. On s'est aperçu qu'aux États-Unis, on a fait croire aux gens qu'il fallait beaucoup manger pour calmer, il fallait beaucoup nourrir les gens pour les calmer. On a créé des obèses. Après les obèses, on a créé des tas de maladies qui sont liées à la mauvaise nourriture. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, moi je suis né et j'ai grandi au Katanga, quand vous regardez la quantité de nourriture que l'on donne à un enfant, c'est juste assez pour l'asphyxier. C'est déjà un miracle que les enfants grandissent normalement, que nous ayons grandi normalement. On donne une grande partie de la nourriture inutile aux enfants. Le professeur parlait tout à l'heure de bien manger. Et lorsqu'il a parlé de bien manger, il a parlé du nombre de calories. Ça se calcule non pas seulement en quantité, mais également en qualité. Et donc, c'est des choses extrêmement importantes sur lesquelles il faut agir. Il ne faut pas agir seulement sur le fait qu'il faille que l'on ait la quantité nécessaire. Il faut aussi agir sur le modèle de nourriture que l'on désire donner aux populations. La seule raison pour laquelle le modèle économique a échoué dans le monde entier, et c'est pour ça que ça inquiète les Nations Unies, c'est pour ça qu'on parle de la pression sur l'environnement, c'est que la population a crû de manière imprévue. Et la croissance démographique est plus rapide en Afrique que partout ailleurs. Et ça commence à inquiéter les gens, parce que finalement, pour nourrir les Africains, il n'est plus possible de ne produire qu'en Europe. Du coup, même la pression sur les terres devient trop élevée. Alors, il faut repenser le modèle économique. C'est à ce niveau-là que les Nations Unies s'inquiètent et se disent « il faut conscientiser tout le monde ». En fait, la bataille dans laquelle nous sommes est exactement la même bataille que nous avons dans le secteur de l'environnement lui-même. Les pays européens et occidentaux en général se sont développés très rapidement en faisant une pression exagérée sur l'environnement. Aujourd'hui, nous payons tous le prix et on essaie de nous conscientiser sur le fait qu'il faut faire un effort pour rapidement changer les habitudes. Je vais donner quelques exemples. La pression qu'il faut pour produire un kilo de viande de bœuf est 7 fois plus élevée que pour produire un kilo de viande de porc. Les Chinois qui mangeaient du porc, parce que c'était des pauvres, aujourd'hui, puisqu'ils s'enrichissent, veulent manger du bœuf. C'est une grosse bêtise. Le Japon, qui est un pays essentiellement végétarien, aujourd'hui, avec le croisement culturel, commence à aller vers les aliments européens. En fait, il faut aussi ajouter autre chose, c'est que nous, les Africains en général, lorsque nous produisions dans le secteur agricole, c'est des produits de première nécessité, mais également des produits sous forme brute qui partaient. Après, on nous renvoie ici des produits transformés et on nous habitue à ces produits transformés. Au point qu'à un moment donné, la question de l'alimentation en République démocratique du Congo et en Afrique en général, c'est une question de culture. Nous devons apprendre à manger ce que nous produisons et non pas nécessairement à manger ce que produisent les autres. Je donne un exemple simple, le poisson. Est-ce qu'il est vraiment raisonnable pour un pays comme le nôtre d'importer d'une piodie, qui est un poisson de basse qualité, alors que nous avons des fleuves et des rivières qui sont remplies de ressources naturelles? Est-ce qu'il est responsable pour nous d'importer de la viande d'un pays comme l'Ouganda, alors que nous avons des terres et nous avons la possibilité de produire localement? C'est toutes les questions qu'il faut se poser.
Alkitenge, il y a Roger Mukubwa de Bujumbura au Burundi qui dit c'est du n'importe quoi, comment ils peuvent nous enfoncer le couteau dans le cœur? Nous mourons encore de faim et eux disent que la production dépasse la demande, peut-être en Europe et en Amérique, mais pas dans le reste du monde, qu'ils arrêtent de nous faire du mal.
La seule chose qui ne met pas en question là-dessus, c'est la logique commerciale et économique. C'est vrai, la production dépasse effectivement les besoins du monde entier. Mais où se situe géographiquement cette production? Est-ce qu'il est possible de l'acheminer de manière commercialement viable et économiquement viable vers les points de consommation que nous sommes? La réponse est non, parce que le commerce veut que nous n'ayons pas les moyens et eux détiennent tout. C'est ce que je disais tout à l'heure, les paradigmes commerciaux et économiques doivent changer. Et aujourd'hui, les Européens, les Occidentaux en général, s'aperçoivent du fait que nous sommes un seul monde, nous appartenons à la même planète et qu'il faut réfléchir de manière globale.
Alors, au niveau des infrastructures, Alkitenge, le secrétaire général de l'ONU, dit les infrastructures et la technologie peuvent réduire la quantité d'aliments qui périssent après la récolte. Mais en ce qui concerne la RDC, on a l'impression qu'il y a des efforts qui sont faits, mais ça reste encore un véritable défi, les infrastructures et la technologie.
Le patron de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, Eustache Oyoro, disait comme ça dans un de ses discours que la République démocratique du Congo, avec ses 80 millions d'hectares de terres arables, peut nourrir un milliard de personnes. C'est des choses qui devraient nous réveiller sur la capacité de la République. Mais après ça, il faut quand même de l'organisation, il faut de l'argent, il faut de la logistique, il faut le savoir-faire, nous ne l'avons pas. Et donc la question de la production est transversale. D'ici que nous soyons à même de nourrir les 70 millions de personnes qui sont étalées sur les 2 345 000 km² de surface que nous avons, c'est quand même un véritable défi et il faut le prendre au sérieux. Parce que, en fait, il se révèle de manière assez claire dans les différentes migrations que nous subissons sur le terrain, du milieu rural, qui est le centre de production, vers le milieu urbain, qui est censé être le centre de consommation, pour des simples variances de qualité de vie que nous avons en milieu rural et en milieu urbain.
Ingénieur Ilanga, il y a Héritier Mukosa qui nous écrit de Bukavu Sud Kivu qui dit « Ce paradoxe existera toujours aussi longtemps qu'il y aura des dirigeants sans conscience, car tout doit dépendre d'une bonne politique interne et d'une volonté politique des dirigeants de chaque pays. Si pas cela, on ne peut rien espérer des Nations Unies, comme c'est le cas avec les OMD. » Réaction, ingénieur Ilanga.
Ben, je crois, je l'ai dit, j'ai donné un cas tout à l'heure là, de comment arriver à réduire l'épineux problème des pénuries alimentaires au niveau des grandes agglomérations. Donc il faut organiser l'évacuation de là où on produit, vers les grands centres de consommation. Et j'ai donné l'exemple de la politique du gouvernement qui veut qu'on accorde une priorité aux infrastructures, aux routes, pour en fait effectivement arriver à desservir comme il se doit. Et vous savez, il y a des grands programmes, peut-être notre compatriote n'est pas au courant de ça. Si nous prenons seulement les cas de la province orientale, il y a un grand programme, un projet pour route, qui est là pour essayer, pas pour essayer, qui se consacre à la réhabilitation des routes nationales 4 et 5. Ça veut dire que les routes ont existé, mais ils ont été suffisamment occupés par la broussaille. Donc maintenant, il y a cette grande politique qui va faire en sorte que nos villes soient approvisionnées en denrées alimentaires de qualité, comme l'a dit le professeur. Donc il y a une volonté politique. Je dirais encore plus, il y a encore une autre volonté politique, je l'ai dit tout à l'heure. Et monsieur le ministre de l'Environnement l'a dit certainement ce matin, il faut une production soutenable, une production durable qui ne détruit pas, qui ne détruise pas l'environnement. Et là, il y a une politique au niveau national, mais également au niveau d'un ministère sectoriel comme le nôtre. Il y a un document technique politique forestière qui consacre tout un axe d'intervention stratégique à la valorisation des produits forestiers non lignés, mais également à une bonne gestion, une gestion durable et rationnelle des richesses naturelles renouvelables actuelles pour notre génération, mais également pour les générations futures. C'est ce que nous appelons tous aujourd'hui communément le développement durable, qui a son volet social, économique, mais également un volet de préservation, du support de la production, qui est l'environnement, qui sont des terres agricoles, mais également des terres forestières. Donc il y a une volonté, je réponds aux compatriotes pour dire qu'il y a une volonté politique pour essayer de résoudre ces problèmes. Il y a, je crois, le professeur Tambo l'a cité tout à l'heure, il y a cette politique de désenclavement des cours d'eau, à commencer par le fleuve Congo. Comment voulez-vous qu'un produit qui est pêché à Yingende ou à Mokoto puisse arriver à un grand centre de consommation comme Mbandaka si, déjà en partant, il n'y a pas de bonnes technologies appropriées pour la conservation? Et si aussi et surtout, comment voulez-vous que ces producteurs-là qui se situent à Katawokombe, qui se situe à Mokoto, puisse continuer à augmenter sa production lorsqu'il est convaincu qu'il ne sera pas évacué la production? Donc, je crois, pour se résumer, il y a la volonté politique et j'appelle notre compatriote à observer les programmes qui sont en cours au niveau national et qui tiennent compte effectivement de la lutte contre la sous-alimentation et l'amélioration, c'est ça aussi manger propre, l'amélioration de la qualité de la production à partir des technologies fiables, à partir des technologies saines et en excluant par exemple dans nos milieux ruraux l'usage des engrais chimiques partant de l'agroforesterie, partant de la production des arbres améliorés, ainsi de suite.
Professeur Sango, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu.
Chantal Saïda depuis Goma au Nord Kivu. En République démocratique du Congo, la famine demeurera tant que la paix ne sera pas rétablie sur l'ensemble de son territoire. Près d'1 million de personnes au Nord Kivu subsistent ou mangent grâce à l'aide des organisations humanitaires, alors que les tout petits paquets d'aide qu'elles reçoivent, maïs, sorgho, haricots, riz, etc., est cultivé, pourri dans les champs quand ils sont en fuite loin de leur résidence ou est pillé par les groupes armés sous le regard impuissant des forces loyalistes, les FARDC. Il est immoral d'être heureux tout seul, dit-on. Zéro famine égale zéro conflit armé.
Professeur, réaction.
En tout cas, je crois l'avoir dit que c'est malheureux de voir un pays qui soit libéré comme nous, de 96 ou 98 jusqu'à aujourd'hui, on a été au moins libéré 10 fois. Et cette libération nous a amené où? Donc, pour moi, ce que vous dites, c'est vrai. Et je l'ai dit, aujourd'hui, tout le monde, dans le monde alimentaire, nous sommes le pays le plus malheureux, le pays qui consomme le moins d'aliments qu'il faut. Donc, pour moi, vous avez pleinement raison. Et je plaide pour ça.
Et donc, en d'autres termes, professeur, la paix reste le seul préalable pour une bonne sécurité alimentaire.
Justement, je l'ai dit même ici, dans la radio au Capi, je dis, bon, j'ai appris que le gouvernement veut acheter des bateaux de pêche. Nous n'avons que 3 coins où on peut développer la pêche, dont le lac Tanganyika. Mais avec tout ce que nous connaissons dans le coin, mais quel est cet investisseur, quels sont ces gens qui vont accepter d'aller aujourd'hui rester au lac Tanganyika où on n'est pas sûr de vivre, de faire la pêche et donner du poisson à ceux qui en ont besoin? Donc pour moi, la paix, c'est capital pour pouvoir évoluer correctement, pour mener une vie qu'il faut et dont on a droit.
Et donc, en revenant sur les propos d'Alki Tengue, professeur, finalement, n'est-il pas ce problème de sécurité alimentaire, ce problème de qualité de nourriture en RDC, ne serait-il pas finalement un problème de culture simplement?
Non, ce n'est pas un problème. Il y a la rareté. Si vous avez suivi au mois de juin de l'année passée, le ministre de l'Agriculture avait dit que les Congolais mangent 5,5 kilos de poissons par an. C'est sorti de la bouche autorisée. Mais logiquement, il est conseillé de manger 57 kilos de poissons. Et si, vous savez aussi, mon cher ami, que la pisciculture, par exemple, a vu le jour en RDC, au Katanga, à Kimpopo, que vous connaissez peut-être un peu plus que moi. C'est là. Et pourquoi est-ce que les Belges avaient créé, avaient initié ce projet qui, aujourd'hui, devient un des plus grands projets en Afrique? C'est pour pouvoir bien manger et les Congolais manger les poissons correctement. Et c'est malheureux, j'ai des chiffres avec moi. Aujourd'hui, vous allez par exemple du côté de Kimwenza, vous demandez aux enfants de 30 ans ou aux personnes de 30 ans, il y en a qui n'ont jamais mangé un poisson d'eau douce. Et vous allez dans les quartiers des natifs, il y a des enfants, vous leur donnez un bon boto, il va vous dire non, je vais manger les pioli. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude de manger. Et pourtant, les poissons étaient un aliment naturel pour les Congolais.
Alors, professeur, en ce qui concerne la technologie, Al-Kitenge a également dit que le savoir-faire, nous ne l'avons pas, mais on sait que la RDC pilule quand même d'experts.
Ben, ce ne sont pas les experts qui manquent. Je m'excuse, vos collègues sont partis chez moi aujourd'hui. J'ai produit par jour au moins 100 000 à l'évin. Et je ne sais même pas que faire avec. Ce ne sont pas les experts. Mais c'est le directeur qui est à ma droite, que j'ai connu comme ingénieur. Aujourd'hui, je l'appelle directeur. Il est capable de vous faire des milliers d'hectares pour amender le sol, qu'il ne faut même pas amender. Je viens du Sénégal, j'ai vu des milliers de vaches circuler dans des endroits où il n'y a même pas une herbe. Mais ici, regardez ce que nous avons comme plateau de Bateke. Qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre comme vache? Des autres produits sans herbes. Nous avons des herbes et on ne produit rien. C'est le monde à l'envers, non?
Al-Kitenge, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Kolwezi au Katanga.
Professeur Ignace Nala, depuis Kolwezi au Katanga, je pense que ce constat amer est réel d'une façon générale. Il nous faut passer de la phase de production à tendance prestigieuse à celle de consommation réelle. Et ceci ne peut réussir qu'en considérant non pas seulement les services financiers, mais aussi et surtout ceux non financiers, c'est-à-dire la sensibilisation et la formation pour les producteurs.
Services financiers et non financiers, Al-Kitenge.
Ça s'appelle stratégie. Il faut avoir une stratégie d'intégration. C'est pour ça que je disais que la grande question au départ, c'était les paradigmes commerciaux et économiques. Regardez ce qui se passe dans ce pays. Nous avons les centres de consommation et nous avons les centres de production. Et dans les centres de production, nous ne renvoyons pas suffisamment d'argent. Conséquence, les gens qui sont dans les centres de production viennent ici. Nous nous retrouvons avec tous eux. Et nous, ici, en train de croupir dans la misère. Et c'est une chose qu'il faut regarder de manière assez claire. Moi, j'aime bien quand on dit que nous avons les moyens. Nous n'avons pas les moyens financiers pour travailler intensivement, de manière claire, mettre en place les infrastructures dont on a besoin pour être en mesure, dans les 5 ans qui viennent, de répondre aux véritables besoins de la République. Nous n'avons pas d'argent, il faut avoir le courage de le dire. Nous n'avons pas le savoir-faire. Je continue à le dire. Si nous l'avions, nous produirions. Je donne des exemples simples. Lorsqu'on parle du riz, les Chinois sont parmi les meilleurs. Et on vous le dit de manière assez claire, ces gens produisent entre 11 et 12 tonnes à l'hectare. Nous produisons du riz ici, demandez combien de tonnes à l'hectare nous avons. Les meilleurs sont à 3 tonnes. C'est malheureux, mais ça veut dire que nous avons des choses à apprendre des Chinois. Dans le secteur de la pêche, les 20 dernières années, nous n'avons pas pêché. Entre-temps, la technologie dans le secteur de la pêche a progressé. Nous nous sommes satellitaires aujourd'hui. En fait, si on nous demande de pêcher aujourd'hui, notre réflexion est encore dans les bateaux. Dans les petits bateaux, je veux dire les pirogues. Non, ce n'est plus possible. Si vous allez dans la pêche à la pirogue, les gens qui pêchent en haute mer avec des technologies élevées vont arriver ici avec des produits moins chers que vous. Et ils vont vous battre sur le marché. Et donc à un moment donné, il faudrait qu'on remette en question notre modèle économique. C'est extrêmement important. C'est douloureux à entendre, mais c'est malheureusement la vérité. Et on dit autre chose. Moi j'aime bien entendre. On a la volonté politique. Mais la volonté politique ne suffit pas. Regardez la dichotomie qu'il y a entre aujourd'hui le discours politique et ce que les gens disent à la cité. Et quand nous sommes dans une émission de radio, il faut savoir qu'il y a des millions de personnes qui nous entendent, qui nous écoutent avec attention. Alors nous devons être suffisamment responsables vis-à-vis d'eux.
Alors, remettre en question le modèle économique ici et maintenant à Kitenge, la RDC scandale, petit paradis, disait le prof, paradoxe écologique, tout ce qu'on veut, qu'est-ce qu'il faut faire ici et maintenant?
Il faut internationaliser la question du développement de la République démocratique du Congo.
C'est-à-dire?
Il faut donner des opportunités à ceux qui savent le faire pour qu'ils le fassent avec nous. Pour que dans les 10 années qui viennent, nous bâtissons l'expertise, la capacité de produire et de transformer localement. Parce que tout qu'on fait aujourd'hui, si nous désirons faire des routes, nous n'avons pas d'entreprise pour les faire. Et malheureusement, tous les marchés qui sont ici sur l'étendue de la République démocratique du Congo, c'est des Chinois, c'est des Européens et bientôt des Malais qui commencent à venir prendre. Lorsqu'on parle de construction, des grandes sociétés de construction, nous n'en avons pas. Il faut prendre conscience de ça. Lorsqu'on parle d'industrie agroalimentaire, nous n'en avons pas beaucoup. Et lorsque vous regardez très bien ceux qui sont en train d'arriver, c'est ZTE, c'est les Chinois, c'est les sociétés israéliennes à qui on vient de donner le site de l'Ancelé. Et ça, c'est un courage que nous devons avoir, de comprendre que les défis congolais ne sont pas que des défis congolais. Il faut les résoudre avec les mains et les bras internationaux.
Ingénieur Ilanga, la volonté politique ne suffit pas, nous n'avons pas des moyens, nous n'avons pas le savoir-faire. Vous venez de suivre Al-Kitenge, réaction, je rappelle qu'il nous reste moins de 9 minutes. J'aimerais avoir des réponses assez brèves de votre part.
Non, écoutez, quand nous avons réagi par rapport au questionnement d'un compatriote, c'est voulu l'assurer que la volonté politique existe, et on a cité quelques cas de réalisation. Au professeur, c'est vrai, effectivement, il faut dire, comme il a dit, il faut dire la vérité, mais je crois que ça sera même aussi, qui me permet d'expression, ça sera ne pas reconnaître l'expertise nationale dans plusieurs domaines dans ce pays qui a été, par plusieurs fois, le premier grenier africain en termes agricoles. Ne pas reconnaître les efforts qui sont fournis, je ne prends que les cas de l'environnement pour une bonne gestion, une bonne préservation de cet environnement à travers des processus comme auxquels la RDC a adhéré, auxquels la RDC a été reconnue, pionnier en Afrique, auxquels la RDC conduit avec son expertise. Et là, je citerai par exemple le processus UNRED qui est connu, qui est le processus de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des terres, qui est très bien conduit par l'expertise nationale. Ne pas reconnaître qu'il y ait une technologie ou des technologies adaptées à notre pays. Effectivement, j'adhère à son idée lorsqu'il parle des moyens. Mais je crois que la technologie et l'expertise, nous l'avons dans ces pays. Je vais seulement vous dire une chose par rapport à la gestion environnementale. Vous savez, les modèles de l'aménagement forestier est parti de ces pays. Je crois que les scientifiques peuvent me soutenir dans cette prise de position. Donc, bref, je vais dire seulement au prof que, effectivement, il y a ces modèles économiques internationaux, il y a plusieurs aléas, mais ces pays ici disposent en ces moments de l'expertise, des technologies adaptées, mais il manquerait certainement, et il a peut-être raison, de dire qu'il manque des moyens financiers conséquents pour qu'il y ait effectivement un décollage. Mais je peux vous rassurer qu'en matière de la conservation des écosystèmes qui constituent le support de la production agricole, il y a des efforts qui sont fournis et qui sont effectivement fournis, pas seulement dans nos bureaux, mais sur le terrain, et ça donne de très bons résultats.
Professeur, en RDC, le seul problème est le manque des moyens.
Non, je crois que mon cher ami est entré, il y a un mélange de pédales. Je regrette beaucoup. Il a donné l'exemple des poissons. Le petit laboratoire que j'ai chez moi, vous pouvez aller dans n'importe, vous ne le trouverez pas nulle part en Afrique. Je suis de la RDC. Mais je dis, je suis le seul, demander à n'importe quel Africain, il n'y a aucun Africain qui a un petit laboratoire pour produire 5 000 à lever par jour.
Mais c'est en vase clos, vous êtes enfermé.
Ce n'est pas en vase clos, je suis en train de passer à votre radio. Je disais à Kelly qui me suit peut-être que j'ai des messages de félicitations venant des États-Unis de partout. Et au niveau africain, je suis très connu, citer le nom de professeur Mutambwe en matière de poissons, je suis là. Il parle de problèmes riz, je regrette. Nous faisons ça. Mais ce qui est à regretter, c'est qu'il y a une barrière entre le chercheur et l'État.
Et le politique.
Et le politique.
Et l'économique.
Et l'économique, peut-être. dans nos différents laboratoires, combien d'argent, moi par exemple, ou d'autres amis, ont reçu pour développer la recherche? 0 franc. Ça fait plus de 10 ans que je suis ici, tout le monde me connaît, je n'ai jamais eu un rond pour développer de la recherche. Mais j'ai fait des histoires avec mes pauvres moyens, mais la politique n'est pas au courant. Je peux même vous dire l'année passée, il y a 2 ans, j'avais trouvé des souches de tilapia pour pouvoir atteindre 500 grammes. J'avais invité à l'époque le ministre de l'Agriculture qui était en scellé, qui faisait la vulgarisation alors qu'il y avait un service national de vulgarisation. Mais le ministre, au lieu de s'occuper de la politique de l'agriculture ou de l'élevage, il faisait la vulgarisation pendant que moi je présentais au pisciculteur les nouvelles espèces de poissons pouvant atteindre 500 grammes par jour, tous les 6 mois.
Professeur, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir?
En guise de conclusion, professeur que je suis, chercheur que je suis, il faut avoir confiance aux professeurs, aux chercheurs. Il faut que notre pays, qui dispose même d'un ministère de recherche, puisse financer les chercheurs pour pouvoir résoudre nos problèmes à tous les points de vue.
Alkitenge, comment briser cette barrière entre les scientifiques, les politiques et l'économique?
Il faut avoir une stratégie intégrée. Je le dis tout le temps dans votre radio, c'est qu'il n'y a rien d'aussi précieux que l'intelligence. Chez nous, on crache sur l'intelligence. Chez nous, on marche sur l'intelligence. Alors, on a des gens comme lui qui, pour moi, devraient être des millionnaires, parce que ce qu'il est en train de décrire ici doit se traduire dans une capacité à être transformé en bien-être. Et pour lui et sa famille, et pour les Congolais. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que moi, je dis, notre pays, nous sommes une véritable démonstration de l'incapacité collective. Nous sommes une véritable catastrophe d'intelligence. Mais en même temps, nous sommes une véritable catastrophe d'inefficacité. Et c'est ça que je suis en train de dire. Ça peut ne pas plaire, mais c'est ça la vérité. Il faut constater que une grande partie de notre population vit en dessous des normes minimums. Je voudrais vous dire aussi que 15% de nos enfants meurent avant 5 ans. C'est une catastrophe. Une des causes, c'est la sous-alimentation. Et quand vous regardez ce genre de choses, vous dites, nous avons un défi fondamental, il faut le mesurer, il faut prendre langue avec la population pour leur dire la vérité, avant de pouvoir dire comment nous allons dimensionner l'effort, parce que l'effort va être douloureux.
Alors, le cap fin zéro en RDC est-il possible?
Il faut d'abord administrer tout le territoire, être à mesure d'aménager une stratégie qui intègre les centres de production qui ne doivent pas équivaloir à la pauvreté, parce que le milieu rural doit être viable, éthique et équitable, et les lier avec des centres de consommation qui ont un sens logique, économique et commercial.
À l'inverse, Alkitenge, comment le politique pourrait-il se rapprocher du scientifique?
C'est évident dans le monde entier, et c'est pour ça que les pays qui évoluent vite sont les pays qui investissent dans la recherche. Il faut reconnaître le sens de l'intelligence au sens général du mot. Il faut savoir rémunérer l'intelligence. Dans ce pays, quand vous faites un travail pour quelqu'un, un travail intellectuel, on a tendance à discuter votre prix, parce que les gens ne perçoivent pas la portée de l'intelligence. Et je crois simplement qu'il est important que l'on se rende compte qu'on doit avoir les universités pour résoudre nos problèmes, et pas des universités pour fabriquer des incompétents.
Un mot en guise de conclusion.
Nous sommes un beau pays, nous sommes un grand pays, il faut prendre conscience de nos défis. Avant de nous intégrer dans le monde, il faut exister. La nation doit avoir des fondamentaux. Le premier fondamental, c'est d'être capable d'occuper le terrain que nous avons, ça veut dire la superficie de la République démocratique du Congo, du point de vue de la gestion.
Ingénieur José Ilanga, un mot en guise de conclusion.
En guise de conclusion, je crois qu'on a suffisamment échangé. Et je crois que ce qu'il faut faire, c'est qu'un développement doit être assis sur un support durable. Donc il faut préserver l'environnement pour s'assurer du bien-être congolais aujourd'hui et aussi du bien-être congolais pour les générations à venir. Donc il faut un développement durable qui tient compte de l'aspect social, qui tient compte de l'aspect économique, mais également de l'aspect environnemental.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à vous chers auditeurs et internautes de nous avoir suivis. Au revoir.